Seigneur, bénis ta parole. On veut vraiment la recevoir avec joie dans notre cœur. Et on te demande, Père de gloire, que tu puisses nous parler à chacun d'entre nous, où que nous soyons, ici ou sur Zoomland. Et juste garde-nous concentrés sur ta parole. Et qu'on dit toutes choses. Amen. Pasteur Tony m'a demandé donc de partager aujourd'hui. Et c'est toujours des grands défis de partager ici. Helmut nous avait parlé la semaine passée donc de la vie bio ou la vie Zoé. Qu'est-ce que Christ aimerait, c'est changer notre vie bio, impactée pour que nous puissions vivre cette vie en abondance Zoé. Donc là, je n'ai pas cherché des sujets. J'ai demandé à Pasteur Tony s'il avait un sujet. Et il m'a dit, et pourquoi pas parler de la déception. Je pense que d'une façon ou d'une autre, nous avons tous eu des déceptions dans le passé, aujourd'hui et certainement demain. Alors la déception, il y a une définition qui est assez étonnante. C'est un état psychologique dans lequel se trouve une personne qui a subi un revers ou un échec ou qui n'a pas atteint les objectifs qu'elle s'était fixés. Je vais répéter encore une fois la définition. C'est un état psychologique dans lequel se trouve une personne qui a subi un revers ou un échec ou qui n'a pas atteint les objectifs qui s'était fixé. Ce sentiment, bien évidemment, il ne vient pas en étant adulte. Il est déjà, dès la naissance, le bébé qui n'a pas sa mère près de lui. Il pleure car il est déçu, le fait qu'elle n'est pas là, le fait qu'elle est loin. Ce sentiment commence, donc, comme je disais, à la naissance. Et c'est un sentiment, je parle bien vraiment du mot sentiment, que toute notre vie nous accompagne jusqu'à la mort. Parfois, cette déception-là, on l'a envers notre famille, envers notre conjoint, envers nos collègues de travail. Même dans l'église, hein, envers notre pasteur, parce qu'on ne le comprend pas, envers le frère et la sœur, qui ne nous comprend pas, ou que nous ne nous comprenons pas, c'est pareil. Et c'est un sentiment qui peut amener des gros dégâts dans la vie d'un croyant. On peut être déçu, mais on doit vraiment faire attention que cette déception ne nous éloigne pas du plan de Dieu. Je m'explique. L'ennemi va tout faire pour nous décevoir de Dieu. Prenons un exemple concret. Seigneur, je te prie pour la guérison de tes choses. Par exemple, prenons la parole de Corinthiens 12:10, quand l'apôtre Paul y dit, Seigneur, ôte de moi cette écharpe de ma chair. Et le Seigneur y dit, non. Non, si on s'arrête juste à cette réponse-là, ça peut amener une déception parce que Dieu n'a pas répondu favorablement, mais en même temps, ça peut nous amener une forme d'incrédulité et même, plus loin, une colère envers Dieu, qu'elle soit légitime ou pas. Je pense qu'elles sont illégitimes. Donc la déception, ça vraiment impacte autant le non-croyant que le croyant. Pour le non-croyant, ça peut l'éloigner vraiment du plan de Dieu. Prenons un exemple. Quand les Hébreux sont sortis donc de l'esclavage, ils ont marché 3 jours, ils n'ont pas râlé, ils n'ont pas murmuré. Et au bout de 3 jours, ils étaient tellement pressés par la soif qu'ils sont arrivés pour crier, pour murmurer contre Dieu et contre Moïse. Et c'est ce que s'appelle les eaux de Meriba, de Mara. Et la déception, encore une chose avant que j'aille plus loin, ça amène de l'amertume dans le cœur. Il y a énormément de versets, je n'ai pas pris pour le moment aucun verset, mais je vais vous en donner, par rapport à la déception. Alors le mot déception dans la Bible, il n'existe pas, mais le sentiment lui-même, il y est. Je m'explique. C'est comme si la déception, nous sommes déçus envers Dieu, envers quelqu'un, envers une situation, parce qu'il n'y a plus d'espoir. Jérémie 8, verset 15. On attend la paix, il n'y a rien de bon. Le temps de la guérison est voici l'épouvante ou la peur. En gros, on est tellement déçu des époques qu'on vit, surtout Jérémie, sur ce qu'il annonce, la destruction de Babylone, tout ça, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Donc c'est vraiment le manque d'espoir, le manque d'espérance qu'on peut le traduire par le mot déception dans la Bible. C'est vraiment très très intéressant parce que, par exemple, regardez, il y a un autre mot qui traduit la déception, qui a la même racine que la déception, Michée 3, 7. Les voyants seront confus. La confusion, c'est la même racine que la déception par rapport à la Bible. Psaume 31, 17, l'Éternel, que je ne sois pas confondu ou conçu quand je t'invoque. Que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts, etc., etc. Mais revenons un peu à nos... Là, j'ai parlé un peu de l'étymologie de la déception. Il y a des synonymes à la déception qu'on trouve donc dans le vocabulaire de la russe. Chagrin, désillusion, un dépit, crève-cœur, amertume. C'est drôle, hein? Et maintenant, toute la Bible, elle est remplie, pas par le mot déception, mais par des personnes qui ont été tellement déçues. Et il y en a beaucoup, je n'en ai pas pris tout parce que ça commence déjà, on peut dire, ça commence déjà avec Agar, même avant Agar, quand elle est enceinte, quand Sarah il la chasse, elle s'enfuit dans le désert, elle est tellement déçue des circonstances qu'au bout d'un moment, il dit, mais Seigneur, je suis tellement déçu, il n'y a même plus d'espoir. Je suis enceinte, il n'y a plus d'espoir pour moi. Je suis tellement déçu de la vie, je suis tellement déçu, etc., etc. Mais j'aimerais vous parler de juste une clé dans trois situations qui nous aide à vaincre la déception. Comme je disais, si on laisse la déception, ça nous attriste le cœur. Un cœur triste est un cancer, est comme un cancer pour les os, comme le proverbe, je ne sais plus comment il dit. Le premier que j'aimerais vous dire, c'est Jacob. Je vais vous mettre un peu dans le contexte, parce que Jacob, il y a beaucoup de choses à dire, en parlant déjà de son nom jusqu'à la fin de sa vie. Jacob, il a eu un frère Esaü, Imagoï, il s'enfuit chez Laban. Laban, il a deux filles, Rachel, Léa. Vous savez déjà, la première déception, c'est quand Laban, il change en disant « Je ne te donnerai pas Rachel, la cadette, mais je te donnerai l'aînée. » Ça fait une petite déception pour Jacob. Bon, ça lui a quand même coûté 7 ans. Mais Léa, elle a pas mal d'enfants, et Rachel aussi. Et les enfants de Rachel, c'est Joseph et Benjamin. Et Joseph, qui était le préféré de Jacob, on sait qu'il a une telle haine, les autres, ils ont une telle haine envers lui, qu'ils décident carrément de le tuer. On voit ça dans Genèse chapitre 37, verset 34. Et quand les autres frères, ils magouillent, on va dire, une histoire comme quoi Joseph a été tué par un animal, etc., etc. Regardez ce qu'ils disent au verset 30. Genèse 37, verset 34. Jacob déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, et il mena le deuil sur son fils plusieurs jours, mais dans d'autres traductions, ils disent pendant très longtemps. Quelle déception que le préféré meure. Quelle déception que même si tu en as 11 autres qui sont là, mais celui que j'aimais, celui à qui j'ai fait des habits colorés, celui à qui je lui ai enseigné certainement la lecture, parce qu'on voit que Joseph était vraiment instruit, même par rapport aux frères et sœurs. Quelle déception de la vie. J'ai plus d'espoir. T'as 11 autres enfants, mais je n'ai plus d'espoir. Et on sait ce qui se passe, pour vous donner, pour faire court. Joseph, il est vendu. Joseph, il a vécu des déceptions. Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais là, qu'est-ce qui se passe quand il y a le deuxième voyage, quand Benjamin il revient, Genèse 42, 36, Et Jacob, regardez ce qu'il dit, tellement il était déçu de la vie. Et Jacob, leur père, leur dit, vous m'aviez privé d'enfants, juste un, mais là il utilise le mot pluriel, d'enfants. Joseph n'est plus, Simon n'est plus, et vous voulez prendre Benjamin, toutes ces choses sont contre moi. C'est-à-dire que, bonjour Christian, c'est-à-dire que la déception qu'il a eue sur sa vie, elle était tellement grande qu'il n'y avait rien qui lui donnait le goût de la vie. Dans certaines traductions, on nous parle même qu'il était mort. Regardez ce qu'il dit au verset 38. Parce que Dieu a le dernier mot, bien évidemment. Mais il dit, mon fils ne descendra pas avec vous, car son frère est mort. Et lui seul est resté. On parle de Benjamin. Et si quelqu'un, si le moindre accident lui arrive dans le chemin, vous allez me faire descendre les cheveux morts dans la sépulcre. En gros, si vous m'enlevez encore la dernière petite chose, j'ai plus d'espérance. Je suis déjà mort parce que Joseph n'est plus. Je souffre, je suis dans le deuil, je suis dans le, on va dire, dans une pensée, dans la déception de la vie parce que Joseph n'est plus. Alors qu'il y a les 11 autres. C'est pour dire aussi un point intéressant, c'est que la déception nous voile le visage. Vous comprenez cette expression, nous voile le visage? La déception altère la vérité. C'est-à-dire que Jacob, il aurait pu dire, ok, j'accepte le deuil, j'accepte de me laisser consoler par Dieu, j'accepte que j'ai perdu un fils et je prendrai soin des 11 autres qui sont là. Mais la déception a voilé son visage. La déception l'a aveuglé en disant que il n'y a plus d'espoir. Je suis déçu de la vie. Seigneur, j'aimais cette femme, Rachel, qui est morte. J'avais 2 enfants. Si Benjamin il meurt, il n'y a plus rien. Quelle déception. Genèse 46, continue un peu pour vous montrer la clé. Donc, on veut Genèse 45, verset 26 à 28. Donc, Joseph, quand il renvoie pour récupérer toute sa famille, Jacob, il voit toutes ces choses-là. Il regardait au verset 28. Et Israël, ou Jacob, il dit, c'est assez. Mon fils vit encore, j'irai et je le verrai avant que je meure. Mais j'ai oublié un verset un peu plus haut, le verset 27. Et il dit, toutes les paroles que Joseph lui avait dites, et il vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter, et regardez ce qu'il dit, et l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Il était tellement déçu de la situation qu'il a vécue, de ce deuil, de cette souffrance. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on ne voit pas le long de la Bible, pendant ce laps de temps que Dieu a parlé à Jacob. Tellement cette déception, elle était lourde pour lui. Et là, on parle son esprit se ranima. Si son esprit se ranima, ça veut dire qu'il vivait littéralement comme un mort. Ok, là tu peux dire, waouh, merci Seigneur, tu as le dernier mot. Je vois toutes ces choses, voilà, mon esprit, il est réanimé. Mais j'ai besoin de plus, Seigneur, pour que je descende en Égypte. Et c'est là qu'on arrive à la clé que je vais vous parler de ces 3 exemples. Genèse 46, verset 2. Et Dieu parla. Et Dieu parla à Israël dans une vision, va en Égypte. La clé contre les déceptions, c'est la parole de Dieu. Jacob, c'est vrai, il a eu, voilà, il s'est réjoui de voir toutes ces choses-là, mais il fallait que Dieu lui confirme dès son Égypte. C'est-à-dire que quand un esprit qui animait comme celui de Jacob, quand il était mort, il n'entendait plus la voix de Dieu. Les déceptions, comme je vous disais tout à l'heure, ça altère la vérité. Mais son esprit s'est réanima par les circonstances que Dieu a amenées, et là, et Dieu lui parla. Vous êtes dans la déception, peu importe le domaine, on a besoin que Dieu nous parle. Et là, on sait la promesse que Dieu lui a faite, ne t'inquiète pas, tu vas voir Joseph, il va prendre soin de toi, c'est lui qui fermera les yeux, etc., etc. Il a quand même vécu pendant 20 ans avec ses déceptions. Ça a amené de l'amertume dans son cœur. Ça a amené peut-être même de la noirceur, ça a amené un tel désespoir. Alors que peut-être qu'il aurait tout simplement dit, Seigneur, j'accepte que j'ai perdu un fils. Aide-moi à prendre soin pour des 11 autres. Et je regardais un peu dans tous ces passages-là de ces 20 ans que Joseph était en Égypte, on ne voit pas que Dieu lui a parlé à Jacob. C'est dommage. 20 ans, c'est long. Hein? Mais voilà, la clé pour Jacob, tout comme pour nous, lorsqu'il y a une déception, écoutons. Et l'Éternel parla à Jacob. Prenons un autre exemple. Élie, 1 roi 18, on connaît bien ce passage. Quand il arrive au mont Carmel, les 400 prophètes de Baal, ils se moquent d'eux, l'Éternel répond, une victoire mais gigantesque. Mais vraiment fabuleuse. Moi j'aurais tellement voulu voir pendant ce temps de sécheresse qu'Élie dit, allez je vais construire un hôtel comme Dieu l'avait dit dans sa parole. Parce que j'ai la foi en Dieu, heureusement. Je vais faire un sacrifice comme Dieu l'a dit dans sa parole. Et non seulement plus que ça, je vais l'arroser de l'eau, même si elle a sécheresse sous ça. On connaît la victoire qu'il a eue. Et là, on a cette magnifique menace, littéralement, si on peut dire comme ça. 1 roi 19, 2 verset 4, Jézabel qui le menace. Qu'est-ce qui se passe? Sauf qu'il peut. Il va donc, pour sauver, verset 3, 1 roi 19, verset 3. En voyant cela, il se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il vient à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son jeune homme. Il s'en alla dans le désert, le chemin d'un jour, et il vient s'asseoir sur un genou. Il demanda la mort pour son âme, et dit, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Et on connaît la suite de ce passage. Seigneur, je suis le seul sacrificateur, le seul prophète qui reste. Encore une fois, on retrouve les mêmes éléments. La déception, parce qu'une femme, peut-être que Élie, je sais pas, moi, je me dis comme ça. Je pensais ça tout à l'heure. Achab, quand il a vu la réponse que Dieu a donnée avec ce sacrifice, je pense qu'il n'est pas resté insensible, puisqu'il a quand même parlé à Jézabel. Et peut-être qu'Élie a dit, waouh, Seigneur, peut-être qu'à travers ce sacrifice, même cette femme païenne, elle peut, comme Pasteur Texier disait, elle peut saisir les miettes de ta grâce et se convertir. Seigneur, tu as fait le miracle. J'aimerais tellement que non seulement tout Israël, mais l'élite se convertisse. Ah ben non. Boum. Une menace. Une déception terrible. Et là, il s'enfuit. Et comme je disais tout à l'heure, la déception, ça altère la vision. Seigneur, oh là là, mon Dieu Seigneur, ôte, moi je ne suis pas meilleur que mes pères. Ça c'est vrai. Et en plus, je suis le seul prophète, j'en ai marre de me battre, Seigneur. Je suis tellement déçu contre Israël qu'ils sont allés pendant longtemps dans l'idolâtrie. Toi tu es intervenu et toujours dans l'idolâtrie. Ils clochent comme on voit dans 1 roi 19. Quelle déception. Et la clé, vous la connaissez déjà. La clé, 1 roi 19, verset 12. Après le tremblement de terre, un feu, l'Éternel n'était pas dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Et voici, une voix se fit entendre. Déception, t'inquiète pas, Dieu a la solution. Écoute la voix. Jacob, ah oui, pendant 20 ans, t'as été déçu. Écoute la voix. Élie, tu étais déçu. Écoute ma voix. Et on sait ce que s'est passé en écoutant cette voix que Dieu lui a dit dans ce murmure doux. C'est fabuleux. Hein? Donc deuxième fois pour vous montrer que la clé d'une déception, pour en sortir, pour vaincre la déception, pour aller au-delà, c'est d'entendre la voix de notre Dieu. Mes brebis entendent la voix. Et là, connaissent. Prenons un troisième exemple. Si je veux parler, c'est de Pierre. Est-ce que vous pensez que lui, il a été déçu quand il a renié Christ? Bien sûr que oui. Quelle déception de lui-même. Quand il disait, Seigneur, pour toi, oh là là, je mourrai pour toi, Seigneur. comme dans certaines relations amoureuses. Oh là là, pour toi, j'irai chercher la lune. Quelle déception de lui-même, parce qu'on ne peut rien faire de nous-mêmes. Trois fois, il a renié le Seigneur avant que le coq chante. Mais on a quelque chose de particulier, le regard de Christ. Et c'est cela qui a attristé. Et regardez ce qui est surprenant, c'est que dans Luc 22, 61, le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvient de la parole. C'est fabuleux. De la parole que le Seigneur lui avait dite. Waouh! Quelle déception! Mais il s'est souvenu de la parole. Certes, cette parole-là, ça l'a confronté en lui-même en disant, je te l'avais dit que tu ne peux pas me suivre par tes propres forces. Je te l'avais dit que si tu te confies dans tes propres forces, tu vas aller d'un échec à un échec, de déception à déception, de la perte, de la totale. Mais il s'est souvenu de la parole. Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Des déceptions. Ah oui. Mais j'aimerais vous, vraiment encore deux petits exemples. Encore avec Pierre. Mais cette fois-ci, c'est des années avant. L'appel de Pierre. Pierre, Luc 5, 5, il a bossé toute la nuit pour pêcher des poissons. C'était son métier. C'était sa vie. Il avait l'expérience de la mer fabuleuse. Et là, il entend Jésus qui dit, va dans la mer, balance le filet, jette le filet. Et là, Simon Pierre qui est déçu. T'imagines, tu travailles pour rien de tout. Ça arrive. Hein? Seigneur, on a pêché toute la nuit sans rien prendre. Encore une fois, mais sur ta parole, je le ferai encore. Seigneur, je suis tellement déçu dans cette situation. Mais sur ta parole, je veux prier pour cette situation. Seigneur, je suis tellement déçu de cette relation, de ce travail, de cette circonstance. Mais sur ta parole que je veux entendre, je vais relancer le filet. Rappelez-vous le Matthieu 8, 8, le centurion romain. Seigneur, juste un mot. Et mon serviteur sera guéri. C'est ce qu'on a besoin. Vous êtes déçus, tant mieux. Nous sommes déçus, tant mieux. Apprenons à écouter la voix de notre Dieu. Dans tous les cas, il y a des exemples et des contre-exemples dans la Bible. Je ne voulais pas faire très long parce que ça peut laisser un temps de questions-réponses. Mais on reviendra toujours. L'être humain est déçu. Peu importe les circonstances, il entend la voix de Dieu et il est restauré. Rappelez-vous Agar quand il part avec Ismaël. L'Éternel entend les cris de l'enfant. Waouh! Rappelez-vous la veuve de Sarepta quand elle y va. Quelle déception de sa vie. De se dire, je vais ramasser quelques morceaux de bois, on va se cuire un peu de pain et on va attendre la mort. Quelle déception de la vie. Seigneur, je pensais que tu as des plans merveilleux pour ma vie. Jérémie 29, 11. Seigneur, je pensais que tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Romains 8, 28. Seigneur, je pensais que nous sommes plus précieux que la prunelle de tes yeux. Et pourtant, je suis tellement déçu. Je suis tellement déçu de ce que je traverse. Ça me fait tellement mal, Seigneur, que... Waouh! Et Dieu va me dire, ce que tu as besoin, c'est juste d'entendre ma voix. Parce que quand tu entends ma voix, tu vas entendre que je suis en contrôle sur tout. Quand tu entends ma voix, tu vas entendre les promesses que j'ai pour toi. Quand tu entends ma voix, je vais faire repasser dans ton cœur Lamentations 3:23. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ne sont pas arrivées à son terme, mais elles sont renouvelées chaque matin. Ça, c'est seulement parce que j'entends la voix de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque, quelle déception. On voit le péché grandir. On voit certains membres de nos familles qui prennent des décisions, mais vraiment qui les détruisent. Quelle déception de voir peut-être que nos enfants ne marchent pas avec le Seigneur. Quelle déception de voir que je dis un truc, je fais un truc, Seigneur, je veux te servir de tout mon cœur. Et je suis tellement chargé par le travail, je suis tellement chargé par toutes ces choses-là. Quelle déception, Seigneur. Comme Pasteur Bruce nous disait, je veux plus, Seigneur. Je suis déçu de moi, de ce que je vis. C'est bien, mais reste pas dessus. Reste pas dessus. L'ennemi va tout faire pour que nous puissions être déçus de Dieu, déçus de la vie. Perdre, psaume 34, perdre le goût de la vie de Dieu. Goûtez, voyez combien le Seigneur est bon. Impossible de goûter quand nous vivons dans la déception. On vivra comme Jacob. Pendant 20 ans, c'est vrai, notre corps, il est vivant, mais on est comme mort. Mais la clé, c'est d'entendre la voix de Dieu. À travers les cours, à travers les pupitres, à travers la parole qu'on lit au quotidien. J'ai beaucoup réfléchi à ce que Pasteur Texier disait. Ne plus l'appeler un culte, parce que c'est un culte personnel. Mais vraiment une réunion des anciens, une réunion des saints. Dans l'église, en entendant la parole de Dieu, certes nous sommes déçus, oui, parce que nous sommes des êtres humains, parce que nous sommes des pécheurs, etc. Mais je reviendrai toujours. La clé, tendre l'oreille. Seigneur, qu'est-ce que tu as à me communiquer aujourd'hui? Vous pensez que Paul n'a pas été déçu? Quand l'église de Corinthe qu'il a bâtie, qu'il a travaillé, il a resté 8 mois, il a investi, il a fabriqué des tentes, il faisait son job, plus prêcher, tout ça. Vous pensez qu'il n'était pas déçu quand l'église disait, mais tu n'es même pas un pasteur. T'es qui, toi? C'est incroyable. Imaginez. Et on peut prendre même... il y a tellement... Jérémie, vous pensez qu'il n'a pas été déçu? Seigneur, les circonstances, elles sont décevantes. C'est vrai que ma vie est précieuse pour toi, mais quelle déception de voir le malheur qui atteint mon peuple. Esther, quelle déception de voir. Jeûne pour moi. Écoutez la voix de Dieu. Écoutons la voix de Dieu. Il n'y a que ça. Rappelez-vous, la parole de Dieu elle a deux particularités. Soit elle rend dans notre cœur elle porte de fruits, soit elle effleure notre cœur. Vous vous rappelez ce que le serviteur du roi disait, même si pareille chose Dieu va faire, cela est impossible. Restons dans la déception. C'est vrai, la ville est entourée de l'ennemi. Restons dans ce que nous connaissons, dans la déception. Ça, c'est clair qu'on va rencontrer que la mort. Alors que le prophète, il a dit, tu vas voir, mais tu n'en goûteras pas. Et nous, c'est pareil. Qui n'a pas été déçu entre nous? Tout le monde. Depuis la naissance jusqu'à notre mort. Mais voilà, soyons pas déçus de notre Dieu et tendons notre oreille pour entendre ce qu'il a à nous dire, peu importe les circonstances. Faut pas oublier que Dieu permet des déceptions, oui, c'est vrai, pour aiguiser notre oreille, ça c'est vrai aussi, mais c'est aussi pour nous faire grandir. Le fer aiguise le fer. Laissons pas les déceptions faire de nous des ennemis, faire de nous des adversaires, faire de nous des... peu importe ce que vous voulez derrière. Mais laissons la parole de Dieu nous unir. Comme Agar, elle a entendu la parole de Dieu. C'est fabuleux. Et il y a plusieurs passages, enfin il y a plusieurs. Il y a énormément d'exemples de toutes ces personnes qui étaient déçues. Il y a même des personnes qui étaient déçues. Je vais vous raconter un témoignage. Vous rappelez Lee Strobel, celui qui a fait plaidoyer pour la grâce, plaidoyer pour Christ et plaidoyer pour la foi. Et plaidoyer pour la foi, il commence par un témoignage de meilleur ami de Billy Graham, qui s'appelle Charles Templanson, quelque chose comme ça. Et il avait certaines questions qu'on peut dire légitimes, sans réponse. Et ces questions-là a amené une telle déception dans sa relation avec Dieu que ça l'a stoppé net dans son appel. Pourtant, au début, il prêchait avec Billy Graham ensemble dans les églises, dans les assemblées un peu partout dans le monde. Et ces questions-là sans réponse, qu'elles pouvaient être légitimes ou pas, ça a amené une telle déception que ça l'a stoppé net dans le plan que Dieu a eu pour lui. Peut-être qu'on ne comprend pas tout. Apprenons quand même à écouter la voix de Dieu. On n'est pas obligé de tout connaître. On n'est pas obligé de tout comprendre. On n'est pas obligé de tout contrôler. Par contre, aiguisons notre oreille parce que lui, il en contrôle. Mais voilà, les trois exemples, je vais m'arrêter là, c'est court. Les trois exemples, déception, peu importe les circonstances, mais la clé pour s'en sortir, c'est la parole de Dieu. La voix de Dieu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Mais je pense que si nous sommes là ce soir, pour recevoir cette ovomatime, c'est parce qu'on veut apprendre à écouter la voix de Dieu. Il y a un chant que j'aime bien de Matt Redman qui dit, ah, il est en anglais, j'ai entendu beaucoup de chansons, beaucoup de voix, pardon, mais il y en a une seule qui fait la différence. Une seule qui fait la différence. Aujourd'hui, on entend beaucoup de mélodies, beaucoup de bruit, LGBT, guerre, pénurie, électricité, tout ce qu'on veut là. Laissons-les. Concentrons-nous sur la voix de notre berger, la voix de notre Dieu. Je pense qu'une des choses que Paul l'a aidé pour surmonter les déceptions, c'est de toujours rester à l'écoute de Dieu. Parce que dans sa souffrance, quand il avait les chars dans sa chair, il a quand même entendu la voix de Dieu. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Quand il était dans la prison, Dieu était avec lui. Et j'aime aussi, parce que je ne sais plus où il disait, tous m'ont abandonné, mais je ne suis pas seul. Dieu est avec nous. Dieu me parle. Il n'y a que lui qui peut me garder de cette déception. Ça nous arrive à tout ça. Et si ça ne vous est pas arrivé, donnez-moi la recette, mais ça nous arrive à tous. Mais la clé, c'est entendre la voix de Dieu. Continuez à entendre la voix de Dieu. Le monde, les circonstances, nos plannings vont tout faire pour l'étouffer, comme la parabole de Sommeur avec des ronces, avec des trucs comme ça. Mais laissons la parole nous pénétrer vraiment dans notre cœur, qu'elle puisse grandir comme un arbre. Psaume 1, heureux ceux qui méditent la parole de Dieu, car il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son feuillage en toute saison. Waouh! C'est bon, non? La clé, c'est la parole de Dieu, ou plus précisément, Jean chapitre 1, verset 1, Jésus Christ. C'est fabuleux, hein? Ah, j'ai oublié de citer Romains 5, 5. C'était le verset que tu me disais au début. Mais c'est merveilleux, hein? Vous savez, combien de gens, même dans le milieu chrétien, sont tellement déçus quand ils arrivent à l'église et puis qu'ils disent « Ah ben, je m'attendais à autre chose. » Parce qu'ils s'attendaient à des choses humaines. Romains 5, 5. « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a donné. Or, l'espérance ne trompe pas. » L'espérance, c'est le contraire de la déception, comme on avait lu tout à l'heure. Amen.